Selon un article de 24 heures paru il y a tout juste 2 semaines, les psychologues vaudois seraient débordés par des demandes de tests de QI, des tests qui permettent de déterminer si une personne est HP, c'est-à-dire haut potentiel, Anne Flamand.
C'est l'un des outils utilisés pour déterminer si une personne est à haut potentiel ou non, c'est ce fameux test de QI, un test auquel il faut atteindre un score de 130 pour être considéré comme personne à haut potentiel. Mais si les demandes pour faire passer ces tests sont en augmentation, la proportion d'individus à haut potentiel, elle, ne varie pas. Les HP, comme on les appelle affectueusement, représenterait entre 3 et 5% de la population selon les estimations.
Alors que mesurent exactement ces tests de QI? Sont-ils fiables? Et dans ce cas, est-il recommandé de les faire passer? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités. Bonjour Pascal Roux.
Bonjour.
Vous êtes psychologue FSP et vous accompagnez depuis plusieurs années des personnes à haut potentiel, des enfants et des adultes. Nous avons également avec nous Fiona Fredston. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue adjointe au service de pédopsychiatrie de la Fondation de Nantes, et vous rencontrez dans votre pratique également des enfants à haut potentiel. Et enfin, Florence Del Rio-Kraft, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, êtes la maman de David, qui a 15 ans, et Guillaume, 18 ans, 2 enfants à haut potentiel. Vous êtes membre de l'ASEP, l'association suisse pour les enfants précoces, et vous allez nous apporter votre témoignage aujourd'hui. On vous en remercie. Merci à toutes les trois, d'ailleurs, d'être ici en studio ce matin. Durant cette première partie d'émission, on va plutôt s'intéresser aux enfants. Alors, disons, Fiona Fredston, est-ce que les demandes concernant les tests de QI sont réellement en augmentation?
Alors écoutez, dans notre secteur qui dessert l'est du canton de Vaud, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation des demandes de tests pour cette problématique-là. Par contre, les demandes de tests sont très fréquentes. Et puis, des questions relatives à cette problématique sont nombreuses. Alors, nous recevons des demandes en général pour des enfants qui sont en scolarité primaire ou secondaire, et puis peu pour les adolescents, plutôt pour les préadolescents.
Et dans quel cas est-ce qu'il faut finalement venir s'adresser à vous et faire un test? C'est quoi les signes qui montrent qu'on doit aller faire un test de QI pour son enfant?
Alors, en général, les enfants nous sont adressés soit par les services de psychologie scolaire, soit par les pédiatres, soit par les parents eux-mêmes, quand il y a des difficultés dans les apprentissages ou un mal-être dans leur vécu scolaire ou global, soit familial, soit dans leur fonctionnement global.
Comment se fait-il alors que des enfants que l'on suppose extrêmement intelligents ou à potentiel puissent se retrouver avec de telles difficultés, surtout les difficultés scolaires ?
Bien, parce que le fonctionnement cognitif est très lié aussi au fonctionnement émotionnel, et des fois quand il y a un enfant qui a une particularité, soit un potentiel plus élevé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pour autant des difficultés dans la gestion de cette différence par rapport à ses camarades. Donc on a des enfants qui présentent différents types de souffrances dans leur scolarité, qui peut les empêcher de bien réussir dans les apprentissages parce qu'ils sont tellement pris à gérer leurs difficultés émotionnelles. Ça peut être une faible estime de soi, une difficulté à s'entendre avec ses pairs, à trouver sa place au milieu du groupe, des éléments plus dépressifs. Parfois aussi, des enfants qui ont un potentiel élevé souffrent de troubles psychiatriques graves. Et c'est ces troubles-là qui viennent au premier plan. Donc nous préconisons une évaluation très globale. Et nous ne nous limitons pas juste au test QI. Donc quand ils arrivent chez nous, nous faisons une évaluation aussi du fonctionnement affectif de l'enfant, et travaillons en réseau avec les partenaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le vécu de cet enfant est difficile.
Pascal Roux, on a d'ailleurs une remarque sur Twitter de Vernèse S qui parle de son fils qui a été diagnostiqué avec un QI de 144. Son cerveau n'est jamais au repos et c'est handicapant pour lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? C'est une fatigue de réfléchir tout le temps?
Oui, alors absolument, on voit ça chez les aussi bien enfants, ados qu'adultes. Ce qui revient régulièrement, c'est « j'ai pas trouvé le bouton off ». C'est-à-dire que la pensée est constamment sollicitée. C'est-à-dire que l'enfant, l'ado, pense. Donc ils sont sans arrêt en train de mouliner. Moi, j'appelle ça le hamster dans sa roue. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emballement de la pensée. La pensée va vite. La pensée aussi est stimulante. Hein. Donc ils ont du plaisir à penser et à réfléchir. Et en même temps, par moments, cette pensée ne s'arrête plus. Donc ça va créer souvent de l'angoisse, de l'inquiétude. Et puis souvent, ce que disent les adolescents, moi je travaille beaucoup avec les adolescents et les adultes, souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils se perdent dans leurs pensées, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point, et puis ils arrivent tout au bout de l'arborescence, qu'on appelle une arborescence, ils arrivent tout au bout de l'arborescence sans plus savoir par quoi ils avaient commencé à réfléchir. Donc on trouve des enfants ou des adolescents qui sont très pris par cette pensée, et donc par l'angoisse qui va avec.
Florence Del Rio Kraft, vous êtes la maman de David, 15 ans, et Guillaume, 18 ans. On l'a dit, hein, tous deux détectés comme étant des enfants à haut potentiel. Mais il a fallu un bon moment hein, pour qu'ils soient détectés.
Il a fallu beaucoup de temps, effectivement. David, quand il était tout petit, à 18 mois, il parlait déjà avec des phrases absolument parfaites. Et puis, il est rentré à l'école enfantine à 5 ans. Nous, on n'a pas pensé qu'il fallait le faire rentrer plus tôt. Et puis, il partait tous les matins très heureux à l'école, jusqu'au jour où moi, je suis allée voir la maîtresse pour discuter comme ça. Puis c'est là où elle me dit, mais écoutez, votre fils, il est sympa, mais alors il fait le clown. Il est incapable de rentrer en classe autrement qu'à quatre pattes en faisant des bruits d'animaux. Puis une fois qu'il a fait ça, il rentre et puis il veut pas travailler. Il se met dans un coin, il suce son pouce, il fait rien. Et pour moi, ça a été mais une claque. Puis je me suis dit, bon, ben, il y a un petit souci. J'ai essayé de parler avec David, lui voyait pas le problème. Il savait pas expliquer pourquoi il se mettait dans un coin en suçant son pouce. Donc on s'est dit avec mon mari, cette fois, on va aller voir quelqu'un quand même. Donc on a vu une psychologue.
Donc c'était à quel âge?
Il avait 5 ans.
5 ans.
Enfin 5 ans et demi quoi. Et on est allé voir une psychologue qui nous a proposé un test de QI. Donc nous on n'y connaissait absolument rien. On a dit alors allez-y. Et donc elle l'a testé. Et puis elle lui dit ben écoute David, t'es très intelligent, t'as tout ce qu'il faut pour bien faire. Par contre tu peux pas être considéré comme surdoué parce qu'il te manque un point sur l'échelle des valeurs. Donc nous on est reparti. Et d'ailleurs elle lui a même dit arrête de faire l'andouille à l'école et tout ira bien. Et nous on est parti avec cette information. Donc en fait, ça a été le leitmotiv à David, arrête s'il te plaît, essaye de te tenir tranquille, fais quelque chose, enfin bref. Puis il a continué comme ça en enfantine, il est allé en primaire, là j'avais toujours les mêmes feedbacks, ah, mais votre fils, alors il est charmant, donc ça on se dit c'est bien, on a bien réussi l'éducation, mais par contre il ne fait rien, il fait toujours, il est dissipé. Et ça a été tellement loin qu'il est en dernière année de primaire, et puis la maîtresse me téléphone parce qu'il devait partir en camp, puis elle me dit écoutez Madame Del Rio, vous auriez la gentillesse s'il vous plaît, de donner un petit quelque chose à David, parce que franchement, on s'inquiète un peu, il est toujours un peu nerveux. Alors là, c'est deuxième claque. Naturellement, David est parti sans rien, il a eu les recommandations d'usage, le camp s'est très bien passé, mais ce jour-là...
Quand on vous demandait de prendre quelque chose, vous parlez de médicaments, donc, c'est ça?
Oui, absolument. Et ce jour-là, moi, j'ai téléphoné à Claudia Jonkesh, qui était donc la psychologue de Lausanne reconnue, et puis on a dû attendre 3 mois pour avoir le rendez-vous, mais là, je me suis dit non, là, c'est fini. Et très vite... Après 2 rendez-vous, elle nous a dit « Mais votre fils, c'est normal qu'il s'embête, il a haut potentiel. » Et puis, vraiment, voilà. Et en sortant de la consultation de Claudia Jonkesh, quand on a eu les résultats, David s'est retourné vers son père Emma. Il avait 9 ans et il nous a dit « Je suis heureux de savoir que je ne suis pas fou. » Je peux vous dire que pour son père et moi, ça a été terrible. Parce que là, on le prend dans la figure, quand on se dit « Bon Dieu, on n'a rien vu. » Mais il n'a rien dit non plus. Mais il ne savait pas le dire, naturellement. Il ne savait pas ce qu'il avait, quoi.
Et c'est tout un processus. Fiona Fredstong, on le voit, un point, il vous manque un point. Quand on fait un test, finalement, on met une sorte de curseur quelque part. C'est fiable ces tests? Ça veut dire quelque chose, un chiffre autour de l'intelligence?
Alors, c'est pour ça que je dis que nous, on fait des évaluations globales où on ne tient pas compte que du QI. Un QI à lui seul ne suffit pas à donner un diagnostic, mais peut donner des hypothèses. Et il faut regarder le fonctionnement global de l'enfant. Donc nous, on complète le test de QI avec des tests psycho-affectifs et une évaluation clinique globale.
On parle de QI. Eux aussi, c'est ça, c'est Luc Wuttrich nous le dit sur Facebook, car l'intelligence sans celle du cœur, ça n'est que de la logique et ça n'est pas grand-chose. C'est ça que vous voulez nous dire aussi?
Oui, quelque chose comme ça. Alors moi, je ne connais pas le terme de QE, mais...
Question émotionnelle,
c'est ça. Émotionnelle.
Mais effectivement, on essaie de voir comment, quelle est la maturité de l'enfant, comment il gère ses émotions. Et c'est bien ça la question, de juste dire si l'enfant de madame était en souffrance, ça paraît aberrant qu'on n'offre pas une prise en charge ou qu'on n'essaie pas de réfléchir à comment soulager cette souffrance.
C'est tout pas ça un pour chiffre. Un point sur un test de QI. On va continuer à décortiquer ce test de QI et poursuivre notre conversation, notamment sur les hauts potentiels et aussi pour les adultes dans la deuxième partie de l'émission. Et puis on découvrira aussi des inventeurs, des entrepreneurs aux idées innovantes. Premier épisode d'une série consacrée au concours Inventé Demain. Ce sera tout à l'heure.
L'heure avec Coop Primagusto et la pomme de terre Celtiane.
Il est 9h sur la première. Merci d'être avec nous et à tout de suite.